Bonjour et bienvenue tout le monde dans ce lundi matin 19 novembre. Nous débutons la semaine.
Oui.
Nous avons l'heureux privilège de débuter la semaine avec les auditeurs. Bonjour Roger.
Bonjour. Bonjour Diane.
Ça va bien?
Très bien, merci.
Vous allez nous parler de quoi ce matin?
Moi, je vais vous parler des Leafs de Toronto engagés des femmes dans les organisations sportives.
Oh. Et dans les vestiaires aussi?
Ça, je sais pas
c'est
si
un peu litigieux dans les vestiaires.
Non, ben, je pense que c'est rendu là. En tout cas, quand j'en ai parlé, l'Atlantique ne le précise pas. Ça s'appelle Go Leafs Go. Mais un autre texte dont je vais vous faire la lecture tout de suite, là, s'appelle la dérive lacrymale.
Oh.
Les larmes.
Sortez vos mouchoirs. Jean-Charles, ce matin.
Oui, bonjour. Ben, moi, c'est un texte que j'ai pris dans Le Devoir le 3 novembre. Ça parle de l'école publique et l'auteur, Marc Fortier fait une comparaison avec ce qui se passe ici au Québec et vous allez voir, c'est pas mal ressemblant.
Et Serge, ben, il est en vacances, il nous a abandonné cette semaine.
C'est le Mexique,
qui l'a appelé. Et pour ma part, ben, j'aurai un texte dans la première partie de l'émission. C'est de Yannick Marcil que j'ai croisé au Salon du Livre d'ailleurs samedi. Ouais. Yannick Marcil, économiste indépendant, qui nous lance un cri de ralliement. Consommateurs et travailleurs, unissez-vous!
Bon. Ouais, c'est bon.
Alors, on vous écoute, Roger.
Oui, dans l'actualité de décembre, on souligne la publication d'un essai de Anne-Cécile Robert, « La stratégie de l'émotion ». Et le journaliste Jean-Philippe Cipriani en fait la critique. Le journaliste intitule son papier « La dérive lacrymale ». Il y a quelques années, un réseau de télévision arborait comme slogan « Diffuseur d'émotions » pour vanter sa programmation. Pas la rigueur de ses équipes, la qualité de ses émissions ou la richesse de son offre, mais sa capacité à nous tirer l'alarme, en deux mots. Dans la stratégie de l'émotion, la journaliste Anne-Cécile Robert décortique l'invasion de l'espace social par le sentimentalisme. Ce faisant, écrit-elle, on tient volontairement à distance la compréhension, le jugement, la revendication. Cette extension du domaine de l'alarme, toujours en deux mots, contamine autant les médias que les discours politiques qui versent chacun dans une sensiblerie avilissante en évitant de remettre en question les causes profondes des drames. On en voit ainsi de l'attrait des médias pour les faits divers. S'ils touchent tout le monde, ils offrent rarement des réponses utiles. Mais dans un univers concurrentiel, les médias choisissent les canaux les plus faciles et consensuels, ceux du « ressenti ». Pas besoin de réfléchir pour être ému. Traiter un événement sur le registre émotionnel ne constitue pas une garantie de pertinence et d'objectivité, rappelle cependant la journaliste. Au contraire, le choix du mélo montre le bon camp. Surtout, il simplifie. C'est le bien d'un côté, le mal de l'autre. Tout n'est pas à rejeter. La guerre en Syrie indifférait jusqu'à l'image du petit Aylan Kurdi mort sur une plage de Turquie. À défaut d'expliquer le conflit, l'image l'a sorti de l'ombre. Mais, pour interroger les causes et contester les pouvoirs, il faut dépasser une émotion qui ne favorise que l'indignation passagère. De même pour la politique, comme Anne-Cécile Robert le rappelle, les larmes de Justin Trudeau pour la cause autochtone cachent un bilan bien mince. Idem pour les inutiles « thoughts and prayers » offerts par les élus américains après chaque fusillade
qui donne la chair de poule.
Oui, qui évite de s'interroger sur l'accès aux armes. L'une des fonctions de la stratégie de l'émotion est ainsi de neutraliser l'esprit de révolte et toute subversion potentielle. Selon l'auteur, l'émotion phagocyte le débat démocratique et le rend manichéen. Alors que la raison guidait nos institutions, c'est maintenant à l'aune de la douleur des victimes que les opinions se forgent, ce qui induit une concurrence des douleurs. Et l'indignation prend souvent le pas sur les faits. Or, c'est la réflexion et l'esprit critique qui devraient présider dans une société démocratique. Anne-Cécile Robert tense une société qui préfère pleurer plutôt qu'agir, qui cherche dans les communions lacrymales ou fugaces, un sentiment d'existence. Malgré certains constats un peu sévères, elle signe ici l'un des meilleurs essais de l'année. Alors, M. Cipriani a beaucoup apprécié la stratégie de l'émotion, si bien qu'il titre son papier « La dérive lacrymale ». C'est dans l'actualité du mois de décembre.
À lire. Merci.
Sometimes I feel as if I'm getting closer. Like now. Yes.
Alors, Jean-Charles, on parle de professeur.
Oui, un texte, comme je le disais tantôt, de Marco Fortier, les profs montent au front. On se trouve au sud-est du Michigan, un état du nord des États-Unis, mais parfois on se croirait au Québec. Les élèves des 106 écoles publiques de Détroit ont eu toute une surprise à la rentrée scolaire. Il n'y avait plus d'eau potable, dans aucune école. La commission scolaire a découvert que l'eau des trois quarts des écoles publiques est contaminée au plomb à cause de la plomberie datant du siècle dernier. Les autorités n'ont pas couru de risque. Elles ont fermé les robinets de toutes les écoles. Autre signal alarmant pour les écoles publiques, les bâtiments ont tellement été négligés qu'ils ont besoin de travaux de 500 millions de dollars. Toits qui coulent, trous dans les murs, moisissures, portes et fenêtres qui ne ferment pas, la liste des rénovations est interminable. Ça vous rappelle quelque chose? Oui, on se croirait au Québec. Mais encore, les enseignants des écoles publiques du Michigan ont le moral à terre. Ils désertent la profession, épuisés par les classes remplies d'élèves ayant des difficultés. Le métier est dévalorisé, il y a une pénurie de profs. Comme chez nous. Aux États-Unis, par contre, il y a deux visions qui s'affrontent qui sont différentes du Québec. C'est que vous avez le Parti républicain qui prône le libre choix, y compris en éducation, et favorise l'entreprise privée tout azimut. Ce qui est nouveau, c'est que le Parti démocrate prend résolument position pour les services publics et pour les droits des travailleurs, que ce soit en éducation, en santé ou en services sociaux, quitte à passer pour un parti socialiste. On assiste à la montée d'une aile progressiste chez les démocrates qui s'inspire de la campagne de Bernie Sanders en 2016, dit Frédéric Gagnon, directeur de l'Observatoire des États-Unis et professeur du département de sciences politiques à l'UQAM. Le chercheur rentre d'une tournée d'une demi-douzaine d'États du Midwest, dont le Michigan. Ce qui l'a frappé, c'est la montée d'une gauche décomplexée chez les démocrates. Trump a remporté la présidence, mais les démocrates estiment que ce sont d'abord eux qui ont perdu l'élection en 2016. Ils en ont tiré des leçons, dit Frédéric Gagnon. Deb Lutton, du Michigan Education Association, est fâchée. Les huit années du règne républicain au Michigan ont porté un coup dur aux écoles publiques, selon elle. Dans les faits, la plupart des familles qui en ont les moyens envoient leurs enfants au privé ou dans les écoles à charte, des écoles financées par les fonds publics, mais qui ne relèvent pas des commissions scolaires. Le gouverneur républicain sortant, Rick Schneider, a tout fait pour favoriser l'éclosion des écoles à charte, a fait valoir le MEA. À commencer par éliminer les limites au financement de ces écoles hybrides, dont certaines font des profits. Les conditions de travail des enseignants du secteur public ont aussi souffert, gel salarial, hausse des primes d'assurance maladie, dégradation des conditions de retraite. Les républicains gouvernent pour les riches, les élèves démunis et handicapés et leurs enseignants écopent en se retrouvant dans des classes difficiles de l'école publique, dit Deb Lutton. Par contre, le programme électoral de la candidate démocrate Whitmer éveille des souvenirs de la campagne électorale québécoise. Maternelle à 4 ans pour tous, investissement dans les infrastructures scolaires, hausse des salaires des enseignants et embauche de professionnels pour soutenir les profs en classe. Mais on est ici aux États-Unis. La présence d'armes à feu en classe était au cœur de la campagne. Dans le 20e district, le sénateur républicain sortant au Parlement de l'État du Michigan veut armer le personnel. Son opposant démocrate, le prof Matt Colesar, s'oppose à la présence d'armes dans les écoles. Les commissions scolaires n'en veulent pas, les enseignants n'en veulent pas, les gestionnaires n'en veulent pas et surtout les enfants et leurs parents n'en veulent pas, a déclaré Colesar dans un journal de la MEA. Des armes dans les écoles, cette fois pas de doute. On est bel et bien aux États-Unis et non au Québec. Mais il y a de l'espoir quand même pour l'école publique au Michigan parce que Mme Whitner, la démocrate, a été élue comme gouverneure le 7 novembre, donc il y a de l'espoir. Voilà, donc je rappelle, c'est un texte Marco Fortier dans le Devoir du 3 novembre.
Merci beaucoup.
En sortant de l'école, nous avons rencontré un grand chemin de fer qui nous a emmenés tout autour de la terre dans un wagon doré. Tout autour de la terre, nous avons rencontré la mer qui se promenait avec tous ses coquillages, ses îles parfumées, puis ses beaux naufrages et ses saumons fumés. Au-dessus de la mer, nous avons rencontré la lune et les étoiles sur un bateau à voile, partant pour le Japon. Et les trois mousquetaires des cinq doigts de la main, tournant la manivelle d'un petit sous-marin, plongeant au fond des mers pour chercher des oursins. Revenant sur la terre, nous avons rencontré sur la voie de chemin de fer une maison qui fuyait, fuyait tout autour de la terre, fuyait tout autour de la mer, fuyait devant l'hiver qui voulait l'attraper. Mais nous, sur notre chemin de fer, on s'est mis à rouler, rouler derrière l'hiver, et on l'a écrasé. La maison s'est arrêtée et le printemps nous a salués. C'était lui le garde-barrière et il nous a bien remerciés. Et toutes les fleurs de toute la terre soudain se sont mises à pousser, pousser à tort et à travers sur la voie du chemin de fer qui ne voulait plus avancer de peur de les abîmer. Alors on est revenu à pied. À pied tout autour de la terre, à pied tout autour de la mer, tout autour du soleil, de la lune et des étoiles. À pied, à cheval, en voiture et en bateau à voile.
Un peu de Yves Montand ce matin en sortant de l'école.
Merci Jean-Sébastien. Alors, je poursuis avec un texte publié dans l'Itinéraire du 15 novembre et signé Yannick Marcil. D'ailleurs, j'ai rencontré Yannick au Salon du livre et il se pourrait qu'il nous accompagne de temps à autre pour lire ses chroniques les lundis matins. Donc, consommateurs et travailleurs, unissez-vous. Il y a de fortes chances qu'une entreprise de télécommunications vous ait passé une petite vite ces dernières années. Vous avez peut-être téléphoné à votre fournisseur Internet et le service technique en a profité pour essayer de vous vendre avec vigueur de nouveaux produits sous pression. C'est le cas de plus de la moitié des Canadiens ayant répondu à un sondage récent. Une situation à ce point préoccupante que le chien de garde de l'industrie, le CRTC, a mis en place une audience publique pour faire la lumière sur les pratiques douteuses de ces entreprises. En théorie économique, on considère qu'un marché ne peut bien fonctionner que dans la mesure où l'information est transparente et partagée entre tous les acteurs. Prenons un exemple classique, l'achat d'une voiture usagée. Si, comme moi, vous n'y connaissez rien en mécanique automobile, vous risquez de vous faire passer un citron, au pire, ou d'acheter un véhicule trop cher. Pourquoi? Parce que vous ne disposez pas de la même information que le vendeur, qui, lui, connaît probablement beaucoup mieux les qualités et les défauts de la voiture. De plus, c'est son rôle de vous la vendre le plus cher possible. Il n'y a rien de mal là-dedans, a priori. En revanche, si vous disposiez de la même information et des mêmes compétences que le vendeur, il vous serait possible de négocier le prix à la baisse, voire de ne pas acheter la voiture si vous saviez qu'elle est un citron. Il en va de même pour une bonne proportion d'entre nous en ce qui a trait au service des télécommunications. Votre fournisseur Internet vous suggère fortement d'augmenter votre bande passante ou d'adhérer à un service de protection contre les logiciels malveillants pour votre bien? Sinon, vous assure-t-il, vous ne pourrez pas naviguer sur le web adéquatement ou pire, vos données personnelles pourraient être vendues à des personnes mal intentionnées. Le problème, c'est que vous ne savez pas vraiment quels sont vos besoins en termes de bande passante, ni à quel point vous êtes vulnérable à ces logiciels malveillants. C'est quoi, anyway, une bande passante? L'information n'est pas partagée de manière transparente entre vous et votre fournisseur. Vous n'êtes pas alors en mesure de prendre une décision éclairée. C'est ce qui explique le comportement de ces entreprises et le fait que 40 % des Canadiens affirment s'être trouvés dans une situation où une entreprise de télécommunications a utilisé des techniques de vente jugées agressives ou trompeuses, c'est ce que nous disaient les Canadiens. Ce fournisseur semble jouer le rôle du grand méchant, un acteur impersonnel et froid, une grande entreprise sur laquelle nous n'avons aucune emprise. Pourtant, c'est bel et bien un humain qui nous parle au téléphone pour nous vendre sous pression ses produits et services. Si cette personne vous met sous pression, on ne doit pas oublier qu'elle l'est également. Les conditions de travail dans les centres d'appel sont généralement atroces. Des emplois mal payés, des horaires atypiques, le service 24/24 est souvent rémunéré à commission. Au final, autant ces travailleurs que les consommateurs sont perdants. Seules les entreprises gagnent. Pourquoi acceptons-nous comme employés ou consommateurs de subir ces préjudices? Pourquoi cet asservissement volontaire? La question est complexe, bien sûr, mais c'est sans doute en partie parce que de part et d'autre, nous ne disposons pas de toute l'information pour prendre des décisions éclairées. Et je ne parle pas ici de l'information technique relative aux produits et services Internet ou de téléphonie, mais plutôt de notre compréhension globale du fonctionnement de l'économie et de ses dynamiques de pouvoir qui génèrent ce genre de situation. Il serait peut-être temps que consommateurs et travailleurs s'unissent pour les dénoncer et transformer le monde. Voilà, c'était le billet de Yannick Marcil dans l'itinéraire du 15 novembre.
Go Leafs Go! C'est Noémie Mercier qui signe ce papier dans l'actualité du mois de décembre. Elle y tient une chronique régulière qui s'intitule « Des gars et des filles ». Noémie Mercier commence par essayer de se dédouaner un peu. Elle dit qu'elle aime les Canadiens. Les Canadiens de Montréal. Le Canadien de Montréal connaît un début de saison encourageant. Mais pour ma part, au risque de passer pour un hérétique, ce sont les Maple Leafs de Toronto qui sont en train de gagner ma faveur. Pas tant en raison de leur prestation sur la patinoire, encore qu'elle pourrait dire que ça va très bien pour les livres cette année, que pour leur décision d'embauche hors normes, les décisions du nouveau patron, Kyle Dubas. Au mois d'août dernier, Kyle Dubas a engagé la hockeyeuse vedette Hayley Wickenheiser, quadruple médaillée d'or olympique parmi son personnel d'entraîneur. Comme je le disais à Diane, le texte ne dit pas si elle va dans le vestiaire ou non, mais j'imagine que oui, si on est entraîneur. Mm-hmm. C'est en soi une révolution. Dans les circuits sportifs professionnels, les femmes sont rarissimes dans des postes liés de près ou de loin à l'entraînement ou au développement des athlètes. Dans la Ligue nationale de hockey, elles sont presque introuvables. Mais il y a une autre embauche qui a attiré mon attention ce jour-là, celle de Noelle Needham, ancienne joueuse universitaire qui est désormais chargée de dépister les talents amateurs dans le Midwest américain pour le compte des Leafs. Elle serait seulement la troisième femme dépisteuse de l'histoire de la Ligue nationale de hockey. Ce choix et le processus de sélection qui l'a précédé constituent à mes yeux un véritable revirement. Nommé directeur général des Maple Leafs en mai dernier à l'âge de 31 ans, Kyle Dubas fait souffler un vent de modernité sur le club, s'appuyant sur la psychologie organisationnelle et les sciences cognitives. Il a modifié ses pratiques d'embauche afin de neutraliser les préjugés ou biais qui ont tendance à s'y infiltrer. Sa première bonne décision fut d'exiger que les candidatures soient anonymes. En se privant de renseignements sur l'identité des postulants, il s'est assuré que des critères comme leur sexe, leur âge ou leur origine ethnique n'influencent pas son jugement. C'est ce que recommandent les spécialistes de la diversité en entreprise sur la base de travaux sur l'anonymisation des CV. Dans les secteurs où elles sont traditionnellement désavantagées, les femmes ont en effet plus de chances d'être convoquées en entrevue lorsqu'on ne sait pas que ce sont des femmes. La deuxième bonne idée de Kyle Dubas fut de demander aux candidats, toujours anonymes, de produire des rapports de dépistage comme ceux que rédigent les professionnels. On sait que les tests d'aptitude et les échantillons de travail sont parmi les outils les plus efficaces pour prédire le rendement d'un futur employé. Dans un entretien d'embauche classique, au contraire, il est facile de se laisser influencer par des facteurs qui n'ont rien à voir avec la compétence, le sentiment de familiarité qu'on éprouve à l'égard de quelqu'un qui nous ressemble, par exemple. Cette impression favorable se répercute sur l'ensemble de l'évaluation qu'on fait d'un candidat, au détriment de postulants qui nous ressemblent moins, mais qui sont peut-être bien plus qualifiés. La nouvelle employée des Leafs de Toronto, Noelle Needham, n'avait jamais occupé un poste de dépisteuse dans les rangs juniors ou professionnels. Propriétaire d'une école de hockey dans le Dakota du Sud, elle est aussi entraîneuse d'une équipe masculine de hockey mineur dans son coin de pays. C'est le rapport de dépistage qu'elle a fourni anonymement qui lui a permis de se démarquer. La jeune femme de 32 ans s'est classée parmi les meilleures. Si le nouveau patron des Leafs a incorporé la diversité dans son plan d'action, c'est parce qu'il la considère non pas comme un fardeau, mais comme un avantage concurrentiel. Et c'est là sa troisième bonne idée. Elle est aussi attestée par de nombreuses études. Comme il a déclaré aux journalistes au mois d'août, les recherches montrent que plus une organisation est diversifiée, meilleures sont ses décisions. Si on engage juste des hommes blancs et je dis ça en tant qu'homme blanc, on se prive d'un paquet de choses, on limite jusqu'où notre organisation peut aller, comment elle peut penser, évoluer, se développer. Nous recherchons les meilleurs candidats et nous ne mettons personne de côté. En puisant dans un réservoir de talents plus vaste et plus hétérogène, Kyle Dubas s'entourera de gens qui ne lui sont pas familiers, des personnes aux perspectives originales, aux idées neuves. Et ça, son club en aura bien besoin s'il espère de gagner sa première Coupe Stanley depuis 1967. Go, Leafs, go!
Merci, Roger.
Les dents serrées, les mains gercées, les batteries à terre. Jaillit l'hiver, maudit hiver. Chez nous l'hiver c'est comme le hockey. Y'a des finales jusqu'au mois de mai. L'été c'est la saison gênée, on ne l'a jamais vu passer. Vacances mouillées, rivières polluées, un jour on gèle. Lendemain on crève, les marins gouins font jamais de grève. Puis le vent entonne l'hymne à l'automne pour me rappeler. Que jaillit l'hiver, maudit hiver. Les dents serrées, les mains gercées, les batteries à terre. Jaillit l'hiver, maudit hiver. Chez nous l'hiver c'est comme le hockey. Y'a des finales jusqu'au mois de mai. L'automne c'est bon mais court à mort, un bon de semaine multicolore. On monte dans le nord voir le décor, le temps de faire graine. Mais mon laurier, les feuilles étaient toutes tombées à terre. L'automne venait de changer en hiver pour me rappeler que jaillit l'hiver, maudit hiver. Les dents serrées, les mains gercées, les batteries à terre. Jaillit l'hiver, maudit hiver. Chez nous l'hiver c'est comme le hockey. Y'a des finales. Jusqu'au mois de mai. Enfin le printemps nous surprend, les pieds dans boîte, la tire au bec. Guéris ta grippe, change tes snow grippes, les verts bourgeons, l'isolation. Oui mais le printemps ne dure qu'un mois, le temps de déjeuner, l'été là pour me rappeler. Que
la formation Christine Tassin et les Imposteurs qui reprenaient ce grand, grand classique hivernal de Dominique Michel, Maudit Hiver, et c'était précédé d'un petit interlude, la reprise également du thème de la soirée du hockey.
J'aimerais souligner la pertinence du choix des chansons de notre
oui, c'était vraiment
excellent Jean-Sébastien à la régie. Oui, oui. Merci.
On se posait la question de savoir ce qu'il allait nous faire jouer, mais là...
Alors, petite brève, nous Jean... aussi, ah, ben, oui. Je vais commencer, vous... ben, allez-y, allez-y.
Non, c'est parce que c'est un lien avec le sport.
Ah, ben allez.
Les commentateurs sportifs,
tout est
parfois...
dans tout.
Oui, tout est dans tout.
C'est que les commentateurs sportifs ont une grosse tâche quand ils font la description de match et tout ça. Voici des perles. Marina Navratilova, c'est pas la première venue. Hein. Elle était commentatrice, c'est l'une des grandes championnes. Puis elle a dit ceci au cours d'un tournoi de tennis. Aujourd'hui, j'avais l'intuition que Venus Williams allait soit gagner, soit perdre. Il y a M. Harry Carpenter.
Ça, ce sont les péronismes, je crois.
Harry Carpenter, lui, c'était un autre commentateur de tennis qui avait dit « Il n'a pas plu depuis qu'il a cessé de pleuvoir.
» Bravo.
La dernière, c'est la course automobile. C'est Murray Walker, commentateur de sport automobile. « La voiture n'a aucun problème, sauf qu'elle est en feu. »
Un peu plus sérieusement, c'est José Blanchette, la semaine dernière, dans Le Devoir, qui nous parlait des livres d'histoire, qui nous parle surtout de ceux qui ont porté les culottes, bien peu des jupons derrière eux. Voici un album qui répare cette lacune destinée aux plus jeunes comme aux battantes de toujours. Nos héroïnes, c'est un album d'Anaïs Barbeau-Lavalette, joliment illustré par Mathilde Saint-Mars. Les 50 héroïnes dont il est question sont locales, pionnières, rebelles ou simplement habitées d'une vision. On retrouve avec plaisir les Marie Rollet, Judith Jasmin, Émilie Gamelin ou Simone Monet-Chartrand dans ces courts textes qui nous les présentent comme des sœurs, des mères, des amies. Les droits des femmes sont constamment appelés à rebrousser chemin, surtout en ce moment. Un regard nécessaire, tourné vers le passé, pas si lointain où nous n'étions que des citoyennes de seconde zone, des ventres à coloniser. Je le donne à lire à l'ado. Oui, parce que Josée, elle a un ado. C'est aux éditions Marchand de Feuilles, en librairie le 14 novembre. Donc, Nos héroïnes, c'est un album d'Anaïs Barbeau-Lavalette.
Oui, ben moi, j'ai une petite nouvelle que j'ai prise dans la revue Science et Vie. Ça dit ceci. Mieux vaut avoir la santé quand on se fait tatouer. Déficit immunitaire et tatouage ne font pas toujours bon ménage, comme le montre la mésaventure d'une jeune patiente. 9 jours après son tatouage de la cuisse, la jeune femme s'est mise à souffrir de fortes douleurs à la hanche et au genou. Les examens ont révélé une forte inflammation musculaire en lien, selon les médecins, avec l'encre du tatouage. Et que voilà.
Bien, merci Jean-Charles. Alors, nous vous revenons après la petite pause. Alors, pour faire suite, vous avez entendu parler dans les deux dernières semaines du pacte, le fameux pacte, on signe pas, moi j'ai signé qui, vous êtes pas vedette ou vous êtes vedette. Il y avait un cahier spécial dans Le Devoir qui était Agir pour le climat. Bien, Jean-Charles va nous lire le premier d'une série de textes qu'on va étaler sur quelques semaines.
Tout à fait. Le premier texte s'intitule « Pour le climat, seriez-vous prêt à sacrifier vos voyages en avion? »
Pas sûr.
Bon. C'est un texte d'Isabelle Paré dans Le Devoir du 17 novembre. Le pacte de la transition appelle les citoyens à réduire leur empreinte écologique. Or, quel geste pèse le plus à l'heure actuelle dans la somme des GES émis par chaque Québécois? Regard sur un bilan carbone fortement motorisé. Seriez-vous prêt à faire une croix sur votre prochain voyage à Paris? En matière d'effet de gaz à effet de serre, chaque vol transatlantique crache par passager l'équivalent de 60 % des émissions produites par l'usage annuel d'une voiture. Mauvaise nouvelle, une virée dans la ville lumière et les bénéfices carbone réalisés par une personne végétarienne en un an viennent de s'envoler. Je suis végétarienne, mais jamais je ne pourrais me résigner à ne plus voyager en avion. C'est ma limite, confiline. Une quarantenaire assez écolo, découragée de voir son bilan enviable être terni par un seul vol outre-mer. Même les écologistes confinés militants ne sont pas encore prêts à faire ce saut et à réfréner leur envie de voyager à travers le monde. Certains chiffres font mal, certes, mais en disent surtout long sur les barrières économiques, psychologiques et culturelles qui jalonnent la route vers la décarbonisation. Désolé, plus que 3 syllabes. Et surtout sur la méconnaissance du public en général du coût environnemental de plusieurs gestes quotidiens. Même si le transport aérien ne compte que 2 à 5 % des émissions de GES totales dans le monde, les déplacements en voiture sont toujours ce qui noircit le plus la feuille de route de la plupart des Québécois. sur les 9,9 tonnes de GES émises chaque année par habitant au Québec, en chiffre de 2015, plus de 4 tonnes sont générées par les déplacements motorisés. Le dernier bilan carbone du ministère de l'Environnement fixe à 41,9 la part du transport dans les émissions de la province, en hausse de 21% depuis 1990. Le transport, ça reste la barrière psychologique la plus forte à franchir au Québec. Dans ce domaine, il n'y a pas encore de culture de partage, affirme Catherine Potvin, experte en réchauffement climatique et ex-négociatrice des accords sur le climat. Toucher à la voiture, c'est toucher à la liberté, à l'indépendance, c'est presque sacré, ajoute-t-elle. La plupart des calculateurs d'empreinte carbone estiment que l'usage d'une voiture ajoute grosso modo 2,5 tonnes de GES au bilan d'un individu pour chaque transe de 10 000 km qu'il franchit. Laisser sa voiture chez soi pour le prendre le transport en commun peut réduire de 26 à 76 le bilan carbone d'une personne, selon certaines études. C'est clair que délaisser la voiture, c'est ce qui a le plus d'impact, car ça élimine les émissions dues à l'usage du véhicule, mais aussi celles liées à sa fabrication, très importante dans le poids carbone d'un véhicule. C'est pourquoi le covoiturage serait une solution très efficace qui limite les deux sources d'émissions liées au véhicule, bien plus que l'autopartage, ajoute Mme Potvin. Les gouvernements multiplient campagnes et guides pour encourager les citoyens à alléger leur empreinte carbone, mais selon une étude réalisée en 2017 à l'Université de Vancouver et à l'Université de Lund en Suède, la plupart des actions prônées par les décideurs publics font mouche en ciblant des mesures assez peu efficaces pour réduire réellement le gaz à effet de serre. Sur plus de 148 actions proposées, les trois pays les plus qui ont la plus forte empreinte par habitant, le Canada, le Royaume-Uni et les États-Unis, aucune ne suggère la réduction du transport aérien ou les bénéfices, par exemple, d'une alimentation sans viande. Certaines choses, des solutions très efficaces et très simples, sont souvent absentes du discours public, estime Catherine Potvin. Plutôt que d'adopter un ton culpabilisant l'usage des transports motorisés, croit-elle, il faut valoriser des solutions pour éliminer les déplacements évitables, comme le télétravail ou les réunions par Skype. Je pense qu'il faut se tourner vers d'autres façons de faire. On a le plus haut taux d'émissions par personne dans le monde. Ça me semble être un motif suffisant pour dire qu'on a un petit bout de chemin à faire. C'est sûr qu'en région, les gens n'ont souvent pas d'autre choix que la voiture. Et c'est là où les gouvernements doivent intervenir. Pour le reste, c'est comme une diète, hein? On commence par réduire là où ça fait le moins mal. Donc voilà un texte d'Isabelle Paré.
Merci. Alors, pour ma part, ben, je vais essayer de faire mon effort auprès des auditeurs pour le bilan carbone en diminuant les voyages en avion, mais je vais faire voyager nos auditeurs au Québec seulement. Et c'est une invitation au voyage et à la découverte. On sort des sentiers battus. Ouais. J'ai mis la main sur un magnifique ouvrage qui s'appelle « Tour du Québec » du magazine « Voir ». Et ce que je vais faire tous les lundis, je vais faire voyager les auditeurs et je vais même leur donner la possibilité, en envoyant un courriel à régie, c'est régie@vuesetvoies.com, de nous demander peut-être une région, parce que toutes les régions sont dans le livre. S'ils ont une région en particulier qu'ils voudraient entendre parler, ben je vais vous en parler. Donc ce matin, je fais juste le prélude un peu, je mets la table pour la semaine prochaine. Et voilà, donc ce livre qui est un livre de la revue Voir. Nous avons donc eu envie de partir sur la route, sans but précis, un peu comme on part à l'aventure sur un coup de tête. Nous ne connaissions pas la destination, mais une chose était certaine, nous avions envie de bouger. Sans être un guide de voyage à proprement parler, Tour du Québec est assurément un carnet de route, un album qui fait état de nos découvertes. Appelons ça un journal de bord où on rend compte de nos périples. Pour nous, un paysage mérite la même attention qu'une œuvre d'art. Un sentier est aussi intéressant qu'une bonne bière de microbrasserie, qu'une boulangerie n'est pas moins pertinente qu'une maison d'édition. Un collectif de poésie peut très bien côtoyer un couple qui s'est lancé dans une aventure viticole, et un cueilleur de bleuets mérite autant d'applaudissements qu'une chanteuse. Tout ce que nous trouvons au hasard de notre trajet, nous avons envie de vous le raconter. Je vais vous donner les clés ou les repères avec lesquels nous pourrons travailler dans les semaines qui viennent. Donc, les repères sur notre route. Qu'est-ce que le terroir? Ce qui se cultive, ce qu'on trouve dans les champs, dans les fermes, dans les potagers, le travail des paysans, les produits qu'on ne trouve nulle part ailleurs, qui garnissent nos assiettes et les étals des marchés. Tout ce qui se croque et se goûte. Le territoire, maintenant. Des paysages, des lieux, des routes, des rangs, un lac, un cours d'eau. Un détour dans un sentier qui nous permet de plonger dans un panorama inattendu, un site au sommet d'une montagne, dans les airs ou même sous la surface de l'eau. Un gîte ou un abri pour passer la nuit ou plusieurs jours. À boire maintenant. Tout ce qui se distille, qui se brasse, qui se vinifie. Du pommier à la bouteille, de la microbrasserie à la soirée entre amis, de la culture de la vigne jusqu'au repas en famille et tout ce qu'il y a entre les deux. Le travail, la minutie, la constance. Pignon sur rue. Une boutique, un établissement, un magasin général, une bonne adresse. Parlons aussi des initiatives locales, des entreprises, de la vie de quartier, des commerces de proximité, de tout ce qui se trouve sur la rue principale et dans votre voisinage, qui vous donne envie de vous promener à pied dans votre ville ou votre village. Culture? Une œuvre d'art, un événement, une exposition, un élément du patrimoine, un monument et même un bricolage. De la musique, des sons, des toiles, des couleurs, des sculptures, des formes, des textes, des mots, des mouvements et des gestes. Tout ce qui sort de la tête des gens et qui étonne. Les restos, le travail en cuisine, ce qui mijote et qui nous met en appétit. Cette manière inusitée de préparer une viande, un poisson, une salade, une sauce, les artisans des fourneaux, ce sont les interprètes du terroir. Voilà sur quoi se base ce livre. Donc, à chaque semaine, je vous ferai voyager sur les routes du Québec et j'invite encore une fois les auditeurs, s'ils ont une demande pour une région particulière, de nous le faire savoir.
C'est l'eau.
On vient d'entendre Laurent Voulzy, Belle île en mer.
Oui, l'eau de ces Caraïbes et des Antilles qui nous fait rêver, mais Jean-Charles, c'est pas si beau qu'on le croit maintenant.
Hein? Ben, ça peut peut-être encourager les gens à diminuer l'empreinte carbone.
On est très concept ce matin.
Oui, c'est ça. Écoutez, j'ai pris un texte dans la revue Science et Vie, écrit par Aude Rambaud, et oui, en août 2018. On parle des sarcasmes. Le jour où les sarcasmes ont étouffé les plages des Antilles. Le texte est présenté en 5 points. Dans le premier point, on parle d'une invasion exponentielle depuis 2011. Particulièrement impressionnant en 2018, les échouages de sarcasmes s'observent de façon régulière depuis 2011 dans les Caraïbes. En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, les quantités ramassées atteignent près de 700 000 mètres cubes dans les pires années. On en trouve aussi de l'autre côté de l'Atlantique, aux mêmes latitudes, sur les côtes de l'Afrique de l'Ouest. Les algues se déplacent au gré des vents, des courants, des vagues, des turbulences. Deuxième point, deux espèces d'algues forment des radeaux. Les sarcasmes sont des algues brunes. La plupart des espèces vivent fixées dans les fonds marins à faible profondeur. Mais deux d'entre elles sont pélagiques, c'est-à-dire qu'elles flottent en surface, formant d'énormes bancs appelés radeaux qui peuvent atteindre plusieurs centaines de mètres carrés sur plusieurs mètres de profondeur. Un phénomène à l'origine encore inexpliqué. Les bancs de sarcasmes sont toujours excités, mais ils se limitaient à la mer du même nom au large de la Floride. L'Institut de recherche pour le développement et l'Institut méditerranéen d'océanologie ont mené deux campagnes en 2017 pour comprendre ce changement géographique. S'agit-il des mêmes espèces qui profitent des conditions propices à des latitudes plus basses ou d'espèces ayant évolué? Prédire les échouages de sarcasmes reste complexe. Des chercheurs tentent de modéliser la formation des bancs en la corrélant avec divers facteurs. Composition physico-chimique de l'eau, nutriments, courants, vents. Ils recourent aussi à la télédétection par satellite. L'augmentation en nutriments du bassin Amazon, la déforestation et l'intensification agricole pourraient accentuer leur prolifération. Et pour terminer, le cinquième point, une toxicité avérée pour les habitants. En pleine mer, les sarcasmes servent de refuge aux poissons. Tout se complique près des côtes. En se dégradant, les algues étouffent les espèces marines locales. Une fois échouées, elles se putréfient et libèrent de l'hydrogène sulfureux nauséabond. Irritant et dangereux pour les personnes vulnérables. Sans compter les problèmes d'accès aux plages et à la mer, comme on peut imaginer. La présence à répétition des sarcasmes aux Antilles et en Guyane prend une tournure politique en raison des retombées néfastes sur l'économie locale. Donc, depuis juin, le ministère de la Transition écologique en France a annoncé un plan de lutte contre les sarcasmes. Ces vagues nauséabondes, donc, la science se mobilise pour comprendre et prévenir ces échouages massifs aux conséquences économiques et sociales majeures. Juste un petit mot.
Oui.
La mer des sarcasmes, c'est une mer sans rivage, composée d'algues brunes regroupées par les vents et les courants. Animée d'un courant circulaire, elle aurait été observée en 1492 par les équipages de Christophe Colomb. Elle s'étend sur plus de 3 millions de kilomètres carrés à l'est de la Floride. Un peu au centre de l'Atlantique. Fait que voilà.
Ben merci, Jean-Charles.
Dans l'actualité du mois de novembre, Julie Barlow pose la question « Est-ce que c'est la fin de l'école anglaise au Québec? » Alors, c'est une question de chiffres, une explication des chiffres.
Est-ce que c'est signé Doug Ford? Ou...
Non.
Non, le texte, non?
Non, pas du tout.
Je vous ai déstabilisé.
un petit peu. Bon, ça va. On reviendra peut-être tout à l'heure. C'est le paradoxe du système scolaire anglophone. Ces 330 écoles primaires et secondaires enregistrent un taux de diplomation sur 7 ans de 85 %, ce qui tire vers le haut la moyenne québécoise, 78 %. Mais le réseau se meurt à petit feu. Il ne compte plus que 95 000 élèves, le tiers des 260 000 qu'il regroupait en 1970. Les 95 000 élèves du système scolaire anglophone se comparent aux 865 000 du réseau francophone. En Gaspésie, on peut penser à New Carlisle, New Richmond, 12 % de la population parle le plus souvent l'anglais à la maison, mais dans 5 ou 10 ans, il n'y aura pas assez d'élèves anglophones pour assurer la survie du système scolaire anglophone, d'autant plus qu'ils sont un peu dispersés sur la côte gaspésienne. Il en va de même sur la côte nord et sur la rive sud de Montréal. Dans la région de Montréal, la situation est jugée stable, mais peu prometteuse. Depuis 1998, la commission scolaire anglophone a fermé le quart de ses 69 écoles, et dans l'ouest de l'île, la commission scolaire Lester B. Pearson en a fermé 7 sur 57. À moyen terme, cette baisse de la population scolaire nuira à la qualité de l'éducation, dit John G. Bradley, qui est professeur retraité de la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université McGill. L'érosion de l'effectif dans le réseau anglophone remonte aux années 1970, notamment avec l'exode des anglophones dans la foulée de l'élection du Parti québécois en 1976 et l'adoption de la loi 101 l'année suivante. Depuis 1971, le pourcentage de Québécois anglophones est passé de 13 à 8%. Un jour, il n'y aura plus d'élèves admissibles, dit Rob Butters, directeur général de la commission scolaire New Frontiers à Châteauguay. Avec la loi 101, c'est une question de temps. Mais il n'y a pas que la loi sans la loi linguistique qui est la démographie qui touche le réseau. Selon une étude de l'Office québécois de la langue française, 28 % des élèves de langue maternelle anglaise fréquentent une école primaire ou secondaire française, soit environ 27 000 personnes, dont un certain nombre par choix. Les parents tiennent à ce que leur progéniture parle le français avec un accent québécois et connaissent les codes culturels, dit Michael Cohen, responsable des communications à la Commission scolaire anglophone de Montréal. Pour conserver leurs élèves, les commissions scolaires anglophones ont introduit des programmes d'enseignement en immersion française. La majorité des matières sont enseignées en français, ce qui met l'élève en contact avec la culture, une méthode conçue à Saint-Lambert, sur la rive sud, en 1965. Les résultats sont impressionnants. Aux épreuves de français, langue d'enseignement, comprises dans les examens du ministère, les classes d'immersion obtiennent des résultats supérieurs à la moyenne des classes francophones. Et au mois d'avril dernier, l'organisme Le Français pour l'avenir a tenu une journée d'activité pour les élèves anglophones de Montréal. À l'UQAM, où avait lieu l'événement, on n'entendait que de l'anglais dans les corridors. Mais dès que les activités ont débuté, les quelques centaines d'ados sont passés au français sans chercher leurs mots. Le clou de la journée, une version scolaire de l'émission La Voix, 7 adolescents ont défilé sur scène pour chanter les classiques francophones de Céline Dion à Édith Piaf. Autre activité courue, un jeu questionnaire où les équipes devaient nommer des personnalités québécoises à partir d'indices. Les jeunes ont reconnu sans hésiter les Boucard Diouf, les Eugénie Bouchard, Maurice Richard et autres Guy Laliberté. Certains estiment qu'il faut conserver le système scolaire anglophone, mais les solutions sont loin d'être évidentes. Il y aurait l'exclusion de la loi 101 aux demandeurs d'asile venant de pays anglophones, ou encore, autre suggestion, assouplir l'obligation des francophones à fréquenter le système francophone. Mais c'est probablement pas demain la veille que les autorités du Québec vont
dossier
retenir,
délicat et retenir politique.
Cette... Oui, c'est ça.
Blaspheming, booted, blue jean baby boy. Oh, how I made them turn their heads. brownie girls, they jump for joy. Paid me blessing in their bays. Delaware, when I was younger, I would roam upon the lake. In the spring, St. Andrew had sufficed, but in the spring I had great hunger. I was Buddha, I was Christ. You wicked wise men, where's your wonder? You Pharisees someday will pay. See my lightning, hear my thunder. I am truth.
D'entendre Kate et Anna McGarrigle, quoique elles étaient accompagnées par l'ensemble du clan McGarrigle, extrait de leur album The McGarrigle Hour, c'était la pièce School Days.
Oui, la famille qui comprend les Wainwright, dont Martha et Rufus.
Oui.
Voilà les brèves. Qui débute?
Ah,
j'en ai une. Ben, je vais commencer, moi, avec la musique. Pour continuer dans, le, dans les Wainwright. Les 50 ans du Zeppelin. Ben, adulé ou honni, c'est selon. Chose certaine, Led Zeppelin a laissé une marque indélébile dans l'histoire du rock. Encore aujourd'hui, le groupe peut se permettre de multiplier les rééditions de ses albums. Pour marquer le 50e anniversaire de la création de la formation, le groupe a choisi de publier son premier ouvrage officiel de photos, Led Zeppelin by Led Zeppelin. Ça ne s'invente pas. Le résultat, même pour le fan qui possède déjà tout, demeure intéressant tant les images inédites sont nombreuses. Ne manquerait plus qu'un nouvel enregistrement live pour rappeler la valeur du groupe sur scène.
Matière à réflexion, c'est Jean d'Ormesson, grand écrivain.
Qui vient de décéder.
Oui, qui vient de décéder l'an dernier, je pense. Il écrivait ceci. Ce qui me frappe beaucoup, c'est que longtemps, j'ai été jeune. Et personne ne me disait jamais « Oh, comme vous avez l'air jeune ». Et depuis quelques années, on me dit souvent « Comme vous avez l'air jeune ». C'est comme ça que j'ai compris que j'étais devenu vieux.
Oui, mais moi, je veux faire encore une suite, presque un concept. Je vais vous parler des algues. J'en ai parlé un peu négativement avec les sargasses. Mais voici que dans la ville de Hangzhou, en Chine, des immeubles sont couverts d'algues pour piéger le CO2. Voici venu le temps des murs, des tours vertes, pardon, au sens littéral, puisque leurs façades sont couvertes de végétation. À l'image du projet French Dream Tower, dont la construction devrait débuter en 2019 à Hangzhou, le cabinet français XTU Architect a imaginé d'utiliser des façades végétalisées doublées de panneaux de quelques centimètres d'épaisseur remplis d'eau, dans lesquelles pousseront des micro-algues. Exposées au soleil et alimentées par l'eau de pluie, ces bio-façades absorberont du CO2 et isoleront en même temps le bâtiment. N'est-ce pas beau?
À Alors, toujours une brève dans le domaine de la culture, c'est Le Sceau de l'Ange, le premier livre de la journaliste française Olivia Deslamberti, avec toutes mes sympathies aux éditions Stock, se veut un témoignage de douleur, mais aussi de lumière entre Paris et Montréal. Le 14 octobre 2015, le frère de l'auteur Alex, établi ici, grand mélancolique, s'est suicidé en se jetant en bas du pont Jacques-Cartier. L'évocation des souvenirs partagés et les va-et-vient de la journaliste entre les deux villes dans ce récit d'intériorité invite à la sauvegarde du souvenir brûlant tout en célébrant l'empreinte du disparu. Il se conclut par ces mots « Ta mort nous a rendus vivants ». Et voilà, c'est ce qui met fin à notre émission cette semaine. Je tiens à remercier Jean-Sébastien à la régie. Jean-Charles, merci de votre présence. Roger,
oui.
Je suis absente la semaine prochaine. Bon. J'ai des obligations professionnelles, donc on vous retrouverait, nos trois hommes, avec Serge.
Et nous serons tous là.
Et vous serez tous là, mais je vous souhaite une bonne semaine à nos auditeurs. Merci.